Frères et sœurs, en ce soir où nous faisons mémoire de la dernière scène, nous sommes invités à veiller avec le Christ en nous mettant en adoration devant le Saint-Sacrement. Je pense à cette parole qu'on attribue à saint Augustin et qui résume bien ce qu'il dit quand il s'adresse à ceux qui communient : devenez ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez. Voilà bien le programme de notre vie chrétienne : recevoir le Christ en nous, nous laisser habiter, transformer par lui, pour nous unir à lui et pour lui ressembler de plus en plus. Ce programme passe par notre participation régulière à l'Eucharistie. Il ne se réalise pas d'un coup, mais lentement, à travers les hauts et les bas de notre vie, à travers aussi des allées et retours entre trois moments que je voudrais évoquer ce soir. Premier moment, celui du regard sur le pain et le vin qu'on présente à l'Eucharistie. Je dirai tout à l'heure qu'ils sont le fruit de la terre et du travail des hommes, ce qui signifie d'une certaine façon que toute la création est représentée par le blé et le raisin qui font le pain et le vin, et que tout le travail de l'homme est représenté par le pain et le vin. En choisissant de se donner dans le pain et le vin de l'Eucharistie, le Christ nous rappelle la bonté fondamentale de la création et de notre travail. Nous nous associons à lui dans son regard de bienveillance et dans sa parole de bénédiction sur les fruits de la terre et du travail des hommes. Ce n'est pas le sens principal de l'Eucharistie, mais c'est un préalable obligé. Reconnaître la bonté de la création, percevoir déjà avec émerveillement que toute créature est un signe de la bonté de Dieu, qu'elle y renvoie, comme le don renvoie au donateur, que le fruit de notre travail lui-même, dans la mesure où nous participons à l'œuvre divine du Créateur, est assez bon pour recevoir et manifester la présence du Christ. Dans cette perspective, on peut dire que celui qui sait goûter la saveur d'un bon pain et d'un bon vin a de bonnes dispositions pour goûter combien le Seigneur est bon. Deuxième moment, celui de l'écoute, qui oriente notre regard plus loin que le pain et le vin qui se présentent à nous. L'écoute de la parole de Dieu, récapitulée dans la parole de Jésus, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous. » Pour saisir la portée de ces paroles, il faut être familiarisé avec le langage de la Bible. On comprend alors que le Christ manifeste l'amour de notre Père du ciel en donnant sa vie, c'est-à-dire en donnant son corps et son sang, et ces mots « corps » et « sang » reçoivent un éclairage nouveau. Le corps. À la fin du Moyen-Âge, dans la région d'Avignon, les époux se mariaient en se disant l'un à l'autre « Je te donne mon corps », à quoi le conjoint répondait « J'accepte ». Quand le prêtre dit à la messe « Le corps du Christ » et que je réponds « Amen », ou quand le Christ nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous », ça n'est pas moins fort, il y a même quelque chose d'encore plus fort, notre communion au corps du Christ tient du mystère, c'est-à-dire d'un secret qui ne se révèle qu'entre conjoints ou qu'entre amis, dans la mesure où ils s'exposent l'un à l'autre, se confient l'un à l'autre, se donnent l'un à l'autre. Et c'est dans notre corps, par notre corps, que nous devenons temple du Saint-Esprit et porteur du Christ, Christophore, que nous devenons celui que nous recevons. Le corps, disait Jean-Paul II, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer, dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu, mystère de l'amour qui unit les trois personnes divines et qui veut se répandre en nos cœurs. Le sang, il représente la vie donnée par Dieu. Dans la tradition biblique, l'homme ne peut pas en disposer, sauf avec la permission de Dieu, pour redonner vie au nom de Dieu à ce qui est menacé de mort par le péché, par les forces de mort et de destruction qui nous blessent et dont nous sommes souvent complices. C'est la raison d'être de ces sacrifices étranges pour les modernes que nous sommes, où l'on tuait des animaux et prenait leur sang pour en asperger les personnes, mais aussi des lieux ou des objets symboliques, symbole de vie. Le sang était le signe privilégié par lequel les hommes blessés par le péché étaient guéris, pardonnés et réconciliés avec Dieu. Et le Christ lui-même a compris sa mort à la lumière du sacrifice de l'agneau pascal, cet agneau dont le sang a préservé de la mort les premiers-nés d'Israël, comme nous l'a rappelé la première lecture. Par le don de son sang, c'est-à-dire par le don de sa vie, Jésus a mené à leur accomplissement tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Désormais, le sang qui nous sauve et nous donne la vie, c'est celui du Christ qui s'est donné pour nous, une fois pour toutes, sur la croix, et qui se donne dans l'Eucharistie, quand le prêtre redit ces paroles, celles que saint Paul aussi nous a rapportées dans la deuxième lecture, « Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Le troisième moment est celui de la communion au Christ, qui a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je communie parce que j'ai faim et soif d'autre chose, bien plus essentielle que le pain et le vin, que Dieu seul peut me donner. Apparemment, c'est moi qui, d'une certaine façon, assimile le Christ comme ma nourriture, mais plus profondément, c'est lui qui m'assimile, qui me rend semblable à lui, me fait entrer dans son corps qui est l'Église. Et la communion dit cette mystérieuse réciprocité de Dieu qui se remet entre nos mains pour que nous nous remettions entre ses mains. Elle dit aussi la présence que je reçois pour la porter plus loin à ceux qui ont faim et soif de l'essentiel. Cette présence, cette communion que nous recevons, nous sommes envoyés la porter, après la bénédiction finale à chaque Eucharistie, dans notre vie quotidienne, par notre qualité de présence, par le don de nous-mêmes, auprès de nos proches et des personnes que nous rencontrons. Et la présence réelle va jusque-là. Je résume. Le regard, l'écoute, la communion. Trois moments de ce qu'on peut appeler au sens large l'adoration du Saint-Sacrement. Quand on dit adoration, on pense au temps de prière passé devant le Saint-Sacrement. L'adoration, c'est aussi cela, mais c'est d'abord la communion au corps et au sang du Christ. Et notre vocation, c'est vivre l'adoration et la communion jusqu'au bout, devenir celui que nous recevons. Demandons la grâce en cette nuit et ces jours où nous célébrons la Pâque de préparer cet acte d'adoration et de communion par notre regard de bienveillance sur la création et les créatures et par notre accueil de la parole de Dieu, d'achever cet acte d'adoration et de communion par notre respect pour le prochain, pour tout homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Christ, notre Maître, s'est fait notre serviteur. Lors de la dernière scène, il s'est mis en tenue de service pour laver les pieds de ses disciples, que ce geste que je vais refaire tout à l'heure en mémoire du Christ nous le rappelle, l'adoration que nous devons au Christ, que nous allons réaliser par la communion à son corps et à son sang, que nous prolongerons pour une partie d'entre nous par la veillée de prière qui suivra, notre adoration ne trouve son plein achèvement que dans l'amour et la charité que nous saurons manifester en parole et en acte à la suite du Christ. Ubi caritas Deus ibi est. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Ces paroles que nous allons chanter tout à l'heure, puissions-nous les confirmer par le don de nous-mêmes.